Votre invitée Karine Bécard, Ondine Millot, ancienne chroniqueuse judiciaire à Libération, pour son dernier livre « Le candidat idéal » paru chez Stock.
Bonjour Ondine Millot.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette enquête que vous avez menée et que vous publiez dans un livre « Le candidat idéal » à paraître la semaine prochaine, une enquête sur un fait divers, appelé à l'époque « Le drame de Melun » dont les auditeurs se souviennent peut-être, octobre 2015. Un avocat décide de tirer à bout portant sur un autre avocat, stupéfaction, incompréhension. Tout cela s'est passé en plein cœur d'un tribunal, le tribunal de Melun. Ondine Millot, vous êtes chroniqueuse judiciaire.
Oui.
Au moment des faits, vous êtes même journaliste à Libération. Vous êtes sur place pour couvrir un procès quand l'impensable se produit. Et tout de suite, vous savez, vous sentez que cette histoire-là, vous allez la raconter. Pourquoi ?
Assez rapidement, c'est vrai, je suis au premier étage du palais de justice de Melun, des policiers se mettent à courir, on nous dit un avocat a tiré sur un autre, on nous dit ils sont tous les deux morts, on nous dit l'avocat qui a tiré c'était un monsieur âgé, près de la retraite, un peu solitaire, caractère renfermé. L'avocat victime qui a reçu les tirs, un bâtonnier solaire que tout le monde adore, qui a été élu avec 108 voix sur 112.
On a tous les ingrédients d'une belle histoire, c'est ça que vous voulez nous
écoutez,
dire
pas seulement ça aussi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire que tout de suite, on nous dit également, le tireur a laissé un journal intime. Donc je me précipite sur ce journal intime parce qu'il a été publié par des amis à lui tout de suite sur Internet. Et là, je vois cet homme qui dit, la vie est injuste, la vie est injuste, en gros. Et puis à la fin, qui dit, et puis le bâtonnier bagné, il a fait ça, il a fait ça, c'est donc le candidat idéal. Bon, pour mourir avec moi. Mais, d'autres personnes disent, mais voilà, dans ce journal, on voit bien que c'est un harcelé, une personne victime de harcèlement, qui va tuer son harceleur. Et moi, ça me paraît étrange qu'un harcelé veuille mourir avec son harceleur. C'est plutôt la personne dont on voudrait se dégager, s'éloigner au maximum et pas mourir les yeux dans les yeux.
Voilà, pourquoi en fait l'un des deux avocats décide-t-il de s'en prendre à l'autre ? C'est tout le cœur de votre livre, c'est évidemment ce qu'on veut comprendre, c'est ce que vous cherchez, vous, à savoir. La relation, comme vous commencez à le dire, elle est tendue entre ces deux messieurs depuis quelques années déjà, c'est ce qu'on apprend très vite, mais est-ce que vous vous dites tout de suite que ça valait un assassinat ? Parce qu'on parle d'assassinat là.
Oui, alors, j'ai oublié de dire, finalement le bâtonnier a survécu. J'apprends qu'il est mort, je rencontre un mort, il survit. Donc c'est aussi une des choses qui me dit, il y a peut-être une histoire possible, parce que je vais pouvoir rencontrer cet homme s'il est d'accord, et il l'a été. Mais effectivement, je me dis non, il n'y a pas forcément matière à un assassinat. En tout cas, c'est étrange qu'il y ait eu comme ça une forme de fixation d'un homme sur un autre, parce que je me rends compte qu'ils se sont vus deux fois. Et que cette relation tendue dont vous parlez, c'est des lettres, mais sporadiques, quand même pas très nombreuses.
Alors, vous, ils se sont vus deux fois, mais ce qui est assez génial, Ondine Millot, dans votre livre, c'est que vous enquêtez sur ces deux personnalités en parallèle, tout est disséqué, leurs origines, leur famille, leur trajectoire personnelle, intime, professionnelle, on sait tout, ou en tout cas à peu près, et plus on avance, plus on découvre qu'en fait, ils se ressemblent sacrément, ces deux messieurs.
Oui, alors ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, pour le coup, je subodorais qu'il y avait une histoire derrière, mais en fait, plus je creuse, plus je me rends compte qu'il y a d'étranges similitudes, que le tireur lui-même ne connaissait pas. Il a voulu partir avec ce double, un petit peu, avec cet homme sur lequel il projetait des tas de choses que je vais découvrir. Mais il ne savait pas, par exemple, que tous les deux viennent de familles très modestes, où tout le monde, en gros, est dans le bâtiment, maçon, plâtrier. Ils sont le seul enfant de ces familles à être avocat, et tous les deux ont voulu devenir avocat pour les mêmes raisons, redresser le destin. Redresser le destin, un peu un désir de revanche sociale, mais
de revanche sociale, de réussite quand même.
De revanche sociale, réussite, mais aussi cette idée que finalement la justice et la vie, de manière plus générale, était plus dure avec les faibles et plus faible avec les puissants. Et que eux, peut-être, pouvaient jouer un rôle pour redresser ça.
Mais ce qu'on perçoit, c'est que ils ont tous les deux potentiels. C'est vraiment ce qu'on comprend à travers votre livre. Ils ont deux potentiels et le même potentiel au départ. Et il y en a un qui réussit et l'autre qui n'y arrive pas, qui est même noyé sous ses difficultés. Quand vous commencez à enquêter, Ondine Millot, à aucun moment vous ne pouviez vous attendre à ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, finalement ?
Alors, Moi, pour moi, c'est un petit peu une histoire aussi de ce qu'on fait de la vie quand elle est dure avec vous, en fait. De ce qu'on fait de la vie quand elle est chienne. Et donc, l'un, effectivement, a réussi à retourner un petit peu à la fois les difficultés, la violence reçue et à ne pas rester victime de ses origines sociales et puis de choses assez difficiles qu'il a vécues. Et puis l'autre n'a pas réussi à ne pas rester victime, en fait, et rester dans ce statut de victime qui l'était, mais du coup qui est devenu son identité. Et tout, il se référait toujours à ça. On m'interdit d'eux, on me spoil, on me persécute. Et ça, je trouve que c'est un livre sur être victime, ne plus être victime.
Décider de ne plus être victime.
Décider de ne plus être victime parce que ça se retrouve ensuite, après, dans le parcours du bâtonnier qui va quand même avoir du mal à se relever de ses balles reçues. Il a failli mourir.
Qui est très atteint, finalement, psychologiquement et dans sa chair aussi. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que vous jetez aussi une lumière très crue sur ce métier d'avocat. On imagine qu'ils réussissent tous, oui, qu'ils sont très prospères. On découvre que donc, c'est pas si simple pour tous. Est-ce que vous aviez déjà observé que leur cohabitation entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas était si compliquée que ça ?
J'avais observé que la réalité des avocats en tant que chroniqueuse judiciaire, en tout cas, n'était pas celle qu'on peut voir quand on regarde tel ténor intervenir à la télévision et qu'on se dit mais quel bagou, quelle aisance, et surtout qu'on voit qu'il a une voiture très chère et des vêtements extrêmement chic, coûteux, etc. Et qu'on se dit c'est vraiment un métier où on gagne très bien sa vie. Je savais que même à Paris, énormément d'avocats ont du mal juste à vivre. Ils sont très nombreux. Le métier est pas facile.
Mais ils arrivent bien à vivre entre eux ou il y a des jalousies, il y a des...
Ça, je l'avais pas vu tant que ça. Parce que finalement, pour moi, c'est pas une jalousie de métier, cette histoire. C'est une jalousie plus existentielle.
Alors, je voudrais aussi rapidement qu'on parle de votre métier, Ondine Milo, chroniqueuse judiciaire. Expliquez-nous pourquoi ça vous passionne, tous ces faits divers. Vous écrivez dans votre livre Le candidat idéal que ça vous rassure de traiter de la dureté de la société. En quoi est-ce que c'est rassurant d'observer la violence des gens tout le temps ?
Alors, c'est un résumé, hein, parce que ça n'est pas que rassurant, bien sûr. Mais
c'est quand même ce que vous écrivez.
Alors, j'écris ça parce que je raconte la question qu'on me pose tout le temps. C'est pas trop dur, c'est pas trop dur, c'est pas trop dur. Avant, j'avais terriblement honte. Parce que, effectivement, ça n'était pas si dur. Et j'avais l'impression d'être une personne un petit peu bizarre, voire glauque, qui avait plaisir à s'intéresser à des choses que les autres trouvaient un petit peu repoussantes, en fait. Hein, pas nobles, en tout cas. Et je dis, mais finalement, j'ai mis du temps à comprendre que quand on s'occupait de la violence, et c'est toujours le cas quand on est chroniqueur judiciaire, ça veut dire qu'il y a un procès ou que, en tout cas, les faits sont connus. Et quand on s'en occupe, on peut voir, quand il y a des bons procès d'assises qui sont bien faits, d'où ça vient, comment ça s'est produit, quels étaient les signes avant-coureurs, et éventuellement comment on pourrait éviter ça. Et
sur vous, ça laisse des traces, cette violence que vous observez, en deux mots ?
En deux mots, j'ai fait un précédent livre sur une femme qui tuait ses bébés. Pareil, j'avais l'impression que ça allait très bien, mais la nuit, je rêvais que j'étais enceinte, je l'apprenais au dernier moment, et j'étais super heureuse, et chaque nuit, je sauvais un bébé. Donc oui, évidemment, je pense que mon inconscient fait un certain travail pour faire que ce soit acceptable.
Merci infiniment, Ondine Milo. Je vous rappelle le titre de votre dernier ouvrage, donc Le candidat idéal, il sort mercredi aux éditions Stock.
Il est sorti déjà, excusez-moi.
C'était mercredi dernier. Eh bien, c'est pas grave, ça change rien, c'est passionnant. J'ai adoré lire ce livre, donc je redis son titre, Le candidat idéal. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci beaucoup.